Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un grand footballeur brésilien des années 1980, Sócrates. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, plus connu simplement comme Sócrates et surnommé le docteur, est né le 19 février 1954 à Belém, dans le nord-est du Brésil. La fratrie compte 6 frères. Son père, petit fonctionnaire devenu inspecteur des impôts, est passionné de philosophie grecque et appelle son fils Socrate en raison du philosophe grec. Et il baptise deux autres de ses fils, Sophocle et Sosthène. Sócrates reste un des plus grands joueurs de l'histoire du football brésilien. Milieu de terrain longiligne et élégant, reconnaissable sur le terrain à sa barbe et à son port altier, Sócrates était surtout un joueur doté d'une grande technique et d'une parfaite vision du jeu. Sócrates a commencé sa carrière dans le club Botafogo de Ribeirão Preto en 1974. En 1978, il rejoint les Corinthians, où il fera l'essentiel de sa carrière. Outre ses remarquables qualités de joueur, Sócrates se distingue aux Corinthians par son engagement politique. Ce joueur, qui levait le poing à chacun de ses buts, est un symbole de la lutte contre la dictature militaire qui s'installe au Brésil en mars 1964. Cette équipe des Corinthians est principalement supportée par des banlieusards et gens du Nord-Est venus à Sao Paulo pour y trouver du travail. L'autre club des plus défavorisés au Brésil est le Flamengo de Rio de Janeiro. Sócrates est aussi un étudiant brillant et décroche un doctorat en médecine de la prestigieuse faculté de Sao Paulo, faisant figure d'exception dans le milieu du football. C'est un pédiatre. Sócrates a été l'un des initiateurs et l'animateur d'une expérience unique d'autogestion appliquée au football, connue sous le nom de démocratie corinthienne. En pleine dictature, dans un contexte de corruption généralisée, alors que le club évoluait en deuxième division, c'est avec quelques-uns de ses coéquipiers et le soutien d'un jeune sociologue, ex-étudiant contestataire sorti de prison, que cette expérience est tentée. Dans ce système d'autogestion du club par les salariés, chaque décision liée à la vie du club est soumise au vote des joueurs, lesquels sont en tout état de cause liés quasiment à vie à leur club. Dans le Brésil d'aujourd'hui, il serait proche du Parti des travailleurs de Lula, le nouveau ancien président du Brésil. Sócrates a fréquenté des artistes, des musiciens, comme Chico Buarque. C'est un intellectuel qui prend tous les malheurs du monde sur ses épaules. Barbu, il rappelle la figure du Che. Il le fait savoir quand il lève le poing après avoir marqué un but. Pour Sócrates, il y a surtout deux sortes de footballeurs. Ceux qui doivent penser et ceux qui doivent courir. Il fait partie de la première catégorie. Gagner ou perdre, le plus important, c'est la beauté, dira-t-il. Pourtant, dans un pays de football où gagner est une nécessité, la victoire est un remède et la défaite un poison. Sur le plan sportif, les Corinthians remporteront deux championnats. Sur le plan politique, la dictature ne peut rien faire pour s'opposer au message politique des joueurs, lesquels inscrivent d'ailleurs ostensiblement le mot « démocratie » sur leur maillot. Ils seront considérés comme des symboles de la lutte contre la dictature militaire brésilienne. En 1983, ils profitent de leur exposition médiatique pour déployer une banderole à l'occasion de la finale de la Coupe du Brésil. Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie. Ils participent notamment au mouvement Diretas, demandant des élections présidentielles directes. Les revendications corinthiennes seront moins intenses avec le début de la transition économique, démocratique et le départ de plusieurs joueurs dans Socrates. Le joueur international tire un bilan très positif de cette expérience. Il dit « Les joueurs exerçaient leur métier avec plus de liberté, de joie et de responsabilité. Nous étions une grande famille avec des épouses et des enfants des joueurs. Chaque match se disputait dans un climat de fête. Sur ce terrain, ils luttaient tous pour la liberté, vaincre la dictature, pour changer le pays. » Socrates se met également en évidence sous le maillot de l'équipe nationale du Brésil. Il obtient 60 sélections et marque 22 buts entre 1979 et 1986. Il dispute les Coupes du Monde 1982 en tant que capitaine et 1986. Malgré une génération de grande qualité et un jeu qui enchante les spectateurs, le Brésil de Socrates et de Zico ne parviendra pas à en remporter le titre mondial. En 1982, en Espagne, le Brésil est battu par l'Italie 3-2 dans un match de groupe qualificatif pour les demi-finales. Il participe au quart de finale France-Brésil de 1986 et rate en cette occasion un tir au but. Retour à Guadalajara, au Mexique. Ce match va donc faire l'histoire. La France élimine le Brésil au tir au but dans un match que Pelé a qualifié de match du siècle. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Après l'ouverture du score par Careca, le Brésilien à la 15e minute, Platini a égalisé de près à la 40e minute. Les occasions franches se sont succédées. Une frappe de Careca échouant sur le poteau et Zico manquant un pénalty à la 71e minute, arrêté par le gardien français Batz. Ce rythme haletant s'est poursuivi durant les prolongations, chacune des sélections manquant de faire la différence. L'épilogue s'est alors joué au tir au but. Dans cette épreuve si particulière, même les plus grands joueurs peuvent se manquer. C'est ainsi qu'à leur tour, Socrates et Platini ont raté leur tir. A contrario, Luis Fernandez n'a pas tremblé et a offert la qualification à la France en prenant le gardien Carlos à contre-pied. La France sera battue plus tard par l'Allemagne en demi-finale 2-0, 4 ans après Séville, et l'Argentine remportera le trophée. En 1984, Socrates arrive en Serie A italienne où sa signature à la Fiorentina, club de Florence, ville d'art, contre 5,3 milliards de lire, suscite l'effervescence. Malgré des statistiques correctes du Brésilien, 25 matchs, 6 buts, l'équipe ne termine que 9e. Socrates quitte le club après une seule année et confie plus tard. Je me suis retrouvé dans un pays complètement arrêté, doté d'un football absolument corrompu. Ça a toujours été comme ça, le calcio. Les résultats sont manipulés, tout le système est corrompu. Les joueurs, les arbitres, tout, c'est une mafia très bien organisée. Socrates revient ensuite au Brésil et finit discrètement sa carrière. Il rejoint Flamengo, où il a retrouvé son coéquipier en sélection Zico. Il se reconvertit comme journaliste. Mais il fume beaucoup, il avoue son addiction à l'alcool et il meurt à l'âge de 57 ans le dimanche 4 décembre 2011. Au cours de sa vie, il dira vouloir mourir un dimanche, le jour de titre pour les Corinthians. Il a brûlé sa vie. Un des frères cadets de Socrates est Rai, joueur du Paris Saint-Germain dans les années 1990. Durant son passage à Paris, Rai ne s'est pas contenté de jouer pour le Paris Saint-Germain. Il a également pris des cours de civilisation française à la Sorbonne pour apprendre le français d'une autre manière, ainsi que des cours de philosophie. Il a imité en un sens son grand frère. L'autre star du Brésil des années 1980 est donc Zico. Sa famille est originaire du Portugal. Sa carrière avec le club de Flamengo a débuté en 1973. Il occupait le poste de milieu offensif avec le numéro 10. Son jeu des deux pieds lui permettait de distribuer efficacement le ballon vers ses partenaires de l'attaque. C'était aussi un très bon organisateur de jeu et un excellent tireur de coups francs. Zico restera avec Socrates le plus grand joueur brésilien à n'avoir pas été champion du monde. Après avoir essayé en 1978, en 1982 et en 1986, tout en demeurant l'idole de Flamengo. Il a effectué aussi un court passage dans le championnat italien de Serie A, à Udinese. Sa carrière d'entraîneur aura connu plus de bas que de hauts. À la Coupe du Monde en France, en 1998, il est l'adjoint de Zagallo. Il a aussi été le sélectionneur du Japon en 2006, entraîneur en Russie et en Turquie, ministre des Sports du Brésil en 1990, comme s'il aimait les causes perdues.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.